autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour poursuivre la réflexion et nos interrogations sur les vaccins en cette journée dédiée sur RFI. Regard croisé entre Paris, Lyon, Le Cap, Nairobi et Brazzaville sur les avancées et les limites de la recherche vaccinale face au virus émergent. Comment a-t-il été possible de produire aussi vite des vaccins contre la Covid, même si la question de leur efficacité face aux variants et surtout de l'accès pour tous à ces vaccins reste entière? En quoi l'expérience d'autres épidémies face à d'autres virus émergents comme Ebola, par exemple, a-t-elle été utile? Pourquoi est-il en revanche si difficile de trouver un vaccin contre le VIH-Sida, mais aussi contre d'autres maladies infectieuses endémiques comme le paludisme? Autant de questions essentielles sur lesquelles nous allons interroger les plus éminentes chercheuses et chercheurs dans le domaine. Nous sommes en direct avec les virologues de l'INSERM Marie-Paul Kieny, prix international de l'INSERM 2017, experte en santé publique, ancienne directrice adjointe de l'OMS. En direct également avec nous, avec le professeur Bruno Lina du CHU de Lyon et du Centre international de recherche de l'INSERM. Nous partagerons également les éclairages vus d'Afrique de la professeure Glenda Gray, présidente du Conseil pour la recherche contre la Covid-19 en Afrique du Sud, ainsi que les réflexions engagées de la professeure Francine Toumi, présidente elle de la Fondation congolaise pour la recherche, et également l'immunologiste kényane Yvonne Bourou autour de la question: quelle recherche pour quel vaccin? Bienvenue pour mettre toutes nos doses et toutes nos pistes en commun. Bonjour Marie-Paul Kieny.
Bonjour.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous, pour nous aider à nous poser les bonnes questions sur la recherche vaccinale. Ça, c'est vraiment votre domaine. Vous êtes virologue, Marie-Paul Kieny, directrice de recherche à l'INSERM, lauréate du prix international de l'INSERM 2017, experte en santé publique. Vous êtes par ailleurs également engagée dans l'initiative DNDI, de lutte contre les maladies négligées. Vous avez été directrice adjointe de l'OMS au moment de l'épidémie d'Ebola. Vous êtes aujourd'hui présidente du comité vaccin contre la Covid-19. Et pour cause, vous savez ce que signifie gérer une crise sanitaire, faire face à une épidémie de virus émergents et évaluer au plus vite les vaccins émergents eux aussi, car on peut dire que c'est une véritable gageure pour la recherche que de produire aussi rapidement des vaccins efficaces, même si cela soulève encore de nombreuses questions. C'est tout de même extraordinaire que ça soit allé aussi vite, encore plus vite que pour l'épidémie d'Ebola. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre ces deux crises sanitaires, Marie-Paul Kieny?
Oui, bien sûr, on peut faire le parallèle. Alors, il y a beaucoup de commonalités et de choses qui sont différentes. Alors, parmi les choses qui sont différentes, c'est qu'on connaissait Ebola depuis très longtemps, en fait, plusieurs décennies, hein, et avant la grosse crise et l'épidémie qu'on a eue en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, mm-hmm. alors que SARS-CoV-2 est venu à nous très, très récemment. Alors, Comment est-ce qu'on peut essayer de mettre les points en parallèle? Il y a aussi le fait que l'Ebola est une maladie de la pauvreté, hein, pour mm-hmm. lequel en fait il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme de la part de l'industrie pour développer des médicaments, des vaccins, etc. Parce que finalement, qui est-ce qui va les acheter? Alors bien sûr, il y a toujours des possibilités d'achat de la part des armées. Parce qu'ils savent qu'éventuellement ils vont devoir aller en Afrique et puis pour vacciner les soldats, etc. Donc il y a des niches, hein, d'utilisation, mais en gros il n'y a pas suffisamment d'intérêt de la part des industriels pour arriver à développer à temps ou dans des temps assez courts des médicaments, des diagnostics, des vaccins. Alors de l'autre côté, on a donc la pandémie de SARS-CoV-2 et de Covid-19 pour lequel il n'y a pas de doute qu'il y a un marché. Il y a un marché qui intéresse le monde entier, mmh. tous les gouvernements. Et au vu du prix, du grand nombre de milliards d'une journée ou d'une semaine de confinement, en fait, tout le monde serait prêt à acheter n'importe quel produit à prix d'or de façon à limiter les dégâts sur la société et les dégâts économiques. Alors, comment se sont passées les dynamiques des uns et des autres? Alors, pour Ebola, puisqu'il n'y avait pas d'intérêt, en fait, le vaccin contre Ebola, avant 2014, s'est traîné à la vitesse de la limace ou de l'escargot dans les laboratoires laboratoire pendant une bonne dizaine d'années. Mmh. Il a été conçu, puis il a été échangé par des scientifiques, et puis il y a eu des expériences animales, etc., etc. Et puis finalement, on est arrivé à une étape clé du développement, puisque il y a eu le financement de ce qu'on appelle un lot clinique, donc c'est-à-dire du matériel qui a été fabriqué, qui a été fabriqué de façon à pouvoir utiliser chez l'homme, qui était par miracle en fait disponible au mois de septembre 2014. Mmh. Alors, au septembre 2014, quand il y a une vraie crise immunitaire, une crise humanitaire en Afrique de l'Ouest, c'est qu'on a dit on ne peut pas ne pas essayer de développer ce vaccin. C'est là qu'a eu l'accélération, puisque les premières personnes inoculées pour la phase 1 avec ce vaccin, qui est devenu après ça le vaccin Merck, qui s'appelait le vaccin canadien à l'époque, était en septembre 2014, et qu'on a pu avoir, l'OMS a pu avoir donc la preuve de son efficacité au mois de juillet 2015. Donc là, on est en train de voir 10 mois pour l'évaluation clinique de ces vaccins jusqu'au moment où on a eu donc la preuve de son efficacité. Alors après ça, il y a eu des productions, des petits lots, etc., etc., mais encore rien de comparable. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin, bien sûr, d'autant de vaccins contre Ebola que contre le SARS-CoV-2. Alors du côté du SARS-CoV-2, on apprend la séquence, on apprend qu'il y a eu un problème. On a la séquence au mois de janvier. Les premières constructions commencent immédiatement, les premiers essais cliniques en mars, les premiers résultats d'essais cliniques en novembre. Donc là, ça a été encore plus vite, puisqu'il a fallu 8 mois pour démontrer la preuve du concept. Et là, presque en même temps, on a eu du vaccin pour commencer à vacciner des millions de personnes.
C'est ça, et presque en même temps, des vaccins différents, donc un vaccin, disons, traditionnel, et un vaccin complètement novateur, mais sur lequel, en fait, des recherches avaient été menées depuis longtemps. Ce vaccin à ARN messager qui, a priori, en plus, fonctionnerait même face aux variants.
Oui, absolument. Donc, en fait, il faut voir aussi que les crises sont un moyen d'accélération fantastique de l'innovation. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas de besoin, quand il n'y a pas de crise, en fait, les choses vont lentement. On est intéressé plus ou moins, et puis voilà, et puis ça coûte cher, et puis est-ce que c'est pressé, etc. Alors que quand il y a une vraie crise, on ne se pose pas de questions. Et c'est pour ça que les vaccins SARS-CoV-2 qui ont été développés sont de tous les types de technologies. Ça a été la même chose, d'ailleurs, pour Ebola, bien qu'en fait, il n'y a que deux vaccins qui sont enregistrés maintenant, celui de Merck et celui de Janssen. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de besoin supplémentaire. Alors que les besoins sont tels que pour le SARS-CoV-2, qu'il y a beaucoup d'autres vaccins qui ont été et qui vont être enregistrés. Mais les crises sont vraiment des accélérateurs d'innovation, puisque pas mal des vaccins prototypes qui sont en cours de développement, qui ont été développés aussi pour la COVID-19, ont été mis au point au moment de la crise Ebola.
Autour de la question quelle recherche pour quel vaccin, nous sommes également en direct, on en est ravis, depuis Lyon avec le professeur Bruno Lina. Bonjour Bruno Lina.
Bonjour.
Merci de nous accorder un peu de votre temps qu'on en sait plus que chargé. Vous êtes virologue, également professeur au CHU de Lyon, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie de l'INSERM, membre du conseil scientifique de la COVID-19. Alors le chercheur et clinicien que vous êtes, dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à tous ces vaccins qui nous posent plein de questions, mais dont en même temps on peut se réjouir qu'ils soient là, qu'ils aient été là aussi vite et qu'ils soient, alors encore faudra-t-il les mettre à la disposition de tous, mais où en est-on à votre avis ? Quel est votre état d'esprit, Bruno Lina ?
Moi, je suis parmi ceux qui sont particulièrement épatés par le fait qu'on est aujourd'hui, je dirais, un an et quelques mois après l'apparition de ce virus. On a déjà au moins 4 vaccins qui sont potentiellement utilisables. Bientôt, il va y en avoir au moins 2 autres de plus qui vont sortir. C'est quand même un processus de développement d'un vaccin qui a été extrêmement rapide, extrêmement efficace. Et surtout, à leur utilisation, on se rend compte que ce sont des produits qui sont très efficaces, qui entraînent des niveaux de protection que pour d'autres vaccins contre des pathogènes respiratoires, on n'arrive pas à atteindre du tout. Donc je crois que la réponse scientifique qui a été apportée par les producteurs de vaccins, qui s'est basée sur de la recherche préexistante, c'est-à-dire que ces vaccins ne sont pas sortis de nulle part. Mmh. Il y avait une technologie qui était en cours de développement, qui était déjà appliquée pour d'autres développements vaccinaux. Eh bien, on se rend compte que toute cette capitalisation qu'on a pu faire sur des développements méthodologiques, aujourd'hui, on en tire les bénéfices et effectivement, on voit qu'il y a un potentiel pour qu'on ait aujourd'hui un impact réel pratiquement dans le temps de l'épidémie sur l'épidémie grâce à la vaccination. Et ça, c'est un résultat incroyable. Moi, j'étais parmi ceux qui, très honnêtement, il y a un an et demi, ne pensaient pas que ça puisse être possible. Donc, c'est un atout qui est tellement important, finalement, qu'on se rend compte qu'il y a une demande internationale qui est à un niveau extrêmement élevé, ce qui est tout à fait normal, puisque le virus impacte tous les pays du monde, et qu'il y a maintenant un effort de production et de partage de ces vaccins à l'ensemble de la population mondiale qui commence à se mettre en œuvre et qui finalement va permettre à tout le monde d'avoir accès, je l'espère en tout cas, à ces vaccins.
C'est vrai que c'est formidable, la rapidité de la recherche, on y reviendra, hein, parce qu'il y a eu de la recherche fondamentale avant sur ce comment utiliser l'ARN messager pour un virus qui se développe grâce à l'ARN messager, mais nos auditeurs, notamment un de nos fidèles auditeurs au Cameroun, à Yaoundé, Christian Yatchet, il aimerait bien avoir un peu d'explication sur justement quand il y a une telle rapidité, comment est-ce qu'on peut être certain, comment est-ce qu'on sait la protection immunitaire qu'ils produisent. Effectivement, on voit, on avance en marchant, mais pas seulement, en fonction des vaccins très efficaces, mais comment on s'en rend compte, comment on se rend compte aussi des questions que ça peut poser, des doutes que ça peut impliquer, des nouveaux variants et puis des accidents rarissimes qui peuvent se produire aussi.
Oui, forcément, il y a plein de questions qui se posent, hein, c'est une évidence. Alors, premièrement, comment est-ce qu'on sait que ces vaccins sont efficaces? Il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies, les étapes réglementaires de développement des vaccins, les différents essais des phases 1, 2 et 3 ont été conduits de façon normale, mais de façon à ce qu'il y ait quand même une prise de risque à chaque fois de la part du producteur de vaccins, c'est-à-dire qu'il a enclenché la phase suivante avant d'avoir forcément tous les résultats consolidés de la phase précédente. Donc on a eu comme ça la possibilité de gagner du temps, puis après il y a eu ces gros essais de phase 3 qui inclut plusieurs dizaines de milliers de patients qui ont permis de définir déjà un niveau d'efficacité vaccinale. Et puis une fois que ces vaccins ont été utilisés, on a continué à surveiller leur impact et en même temps on a continué à surveiller l'émergence éventuellement d'effets secondaires parce que certains effets secondaires ne peuvent pas être observés dans les essais cliniques. Il n'y a pas assez de patients qui reçoivent le vaccin et on ne les voit parfois apparaître que lorsqu'on utilise ce vaccin et qu'il y a plusieurs millions de doses qui sont administrées et là, on peut avoir des signaux qui apparaissent. Mais au total, l'ensemble des éléments que l'on a aujourd'hui sont toutefois extrêmement rassurants et qui confirment, premièrement, les niveaux d'efficacité qui avaient été mesurés lors des essais de phase 3 et parfois même avec des bonnes nouvelles puisque on a eu, et vous en avez parlé, l'apparition d'un certain nombre de virus qu'on appelle des variants, qui sont des virus qui présentent des caractéristiques un petit peu différentes du virus qui a été inclus dans le vaccin initialement, qu'on appelle la souche historique Wuhan, hein, pour bien dire que c'était parmi les premiers virus qui avaient été détectés. Eh bien, lorsqu'on regarde ces vaccins et leur efficacité vis-à-vis de ces variants, eh bien là encore, c'est des plutôt bonnes nouvelles. Alors, souvent, l'efficacité n'est pas exactement la même que celle que l'on a vis-à-vis du virus d'origine, mais elle reste quand même à des niveaux qui sont très élevés, en tout cas qui permettent de continuer à capitaliser sur l'utilité de ces vaccins malgré l'apparition de ces variants. Et il reste encore des questions. Il reste des questions sur la tolérance, vous l'avez évoqué. Il reste des questions sur la durée de l'immunité. Est-ce que cette immunité va durer 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est très difficile de répondre à cette question et on apprend effectivement en marchant.
Autour de la question, quelle recherche pour quel vaccin, donc ici comme ailleurs, partout sur la planète, direction l'Afrique du Sud, particulièrement meurtrie par cette pandémie, où a émergé un nouveau variant sud-africain contre lequel certains vaccins protégeraient moins que d'autres. On fera le point dans un instant avec la professeure Glenda Gray depuis le CAP, hein, c'est la présidente du Conseil sud-africain pour la recherche médicale, juste après avoir écouté le groupe musical Nlovu Youth Corps, un chœur de jeunes musiciens sud-africains de la province du Limpopo, c'est au nord du pays, qui se réinvente malgré la pandémie en composant des morceaux comme Jabba Jabba pour inciter à se faire vacciner. Le morceau inspirant que nous avons choisi se nomme We Shall Rise, We Will Rise. Nous nous relèverons. Ça, c'est ce que rappelle une des choristes du groupe, Twisley Maasanabo. Au micro, notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson. Les artistes aussi, dit-elle, ont un rôle à jouer pendant cette pandémie.
En tant que musicien, on peut aider à faire passer le mot, à encourager les gens à se faire vacciner. Parce que souvent, une chanson vaut 1000 mots.
Relate more to music.
We will rise, nous nous relèverons. Le groupe sud-africain Glovu Youth Corps sur RFI. Au Lekeur en Afrique du Sud comme ailleurs en cette journée spéciale vaccin sur RFI, il en faut pour tout le monde. Autour de la question, quelle recherche pour quel vaccin? Nous sommes en compagnie des virologues de l'INSERM, Marie-Paul Kenny, président du comité vaccin, et Bruno Lina, membre du conseil scientifique Covid-19. Je vous propose tout de suite l'éclairage vu d'Afrique du Sud de la professeure Glenda Gray, que vous connaissez bien, Marie-Paul Kenny. Elle est présidente du conseil sud-africain pour la recherche médicale. Cette chercheuse de renommée internationale travaille depuis plusieurs années sur un vaccin contre le VIH-Sida. Elle s'est donc retrouvée en première ligne pour faire le lien entre les réseaux de recherche, le ministère de la Santé sud-africain et les laboratoires dans un pays particulièrement meurtri par la Covid. 53 500 morts, plus d'1 500 000 cas à ce jour. Et un nouveau variant qui a forcé le pays à revendre les doses de vaccin AstraZeneca, à arrêter temporairement la vaccination avec le vaccin Janssen pour les soignants et qui a augmenté ses commandes de vaccins ARN Pfizer, le seul efficace à ce jour contre le variant sud-africain. Une situation complexe que la professeure Glenda Gray gère au jour le jour depuis le Cap, en passant à la télévision très régulièrement en Afrique du Sud et en gardant l'espoir chevillé au corps. Notre correspondant en Afrique du Sud, Romain Chanson, a joint cette chercheuse d'exception qui cherche donc depuis des années un vaccin contre le VIH-Sida, qui espère bien arriver à en trouver un. Romain Chanson lui a demandé pourquoi, selon elle, il a été bien plus rapide de trouver des vaccins contre la Covid-19.
Je pense que le pathogène du SARS-CoV-2 est beaucoup plus simple à comprendre. Il faut aussi dire que la protéine Spike, qui a été utilisée comme immunogène pour le vaccin, s'est trouvée être très efficace. L'une des autres raisons qui explique pourquoi c'est plus simple de trouver un vaccin contre le SARS-CoV-2, c'est parce que ce virus n'évolue pas ou mute aussi rapidement que le virus du VIH. Le SARS-CoV-2 a eu besoin d'environ 10 mois pour muter et donner les variants que nous avons aujourd'hui. On a aussi beaucoup de chance, puisque parmi les plateformes vaccinales que nous utilisons pour développer un vaccin contre le SARS-CoV-2, beaucoup viennent du programme de développement des vaccins, en particulier celle utilisée pour le Johnson & Johnson. Et donc, en ce qui concerne le Covid-19, on a la chance que tous nos investissements dans la recherche pour trouver un vaccin contre le virus du sida nous sont utiles aujourd'hui. pas seulement contre le Covid-19, mais aussi contre Ebola et Zika.
Professeur Glenda Grey, vous évoquez l'apport de la recherche contre le VIH dans la lutte contre le Covid-19 aujourd'hui. Mais inversement, est-ce que les découvertes qui sont faites autour du Covid-19 peuvent aider à trouver un vaccin à d'autres maladies comme le VIH ?
Je pense qu'on a fait de grands progrès autour de l'ARN messager. C'est une plateforme vaccinale très intéressante et nous sommes très enthousiastes de constater que l'ARN messager a permis de produire des vaccins efficaces contre le SARS-CoV-2, à la fois chez Moderna et chez Pfizer. Et on devrait utiliser l'ARN messager pour essayer de trouver un vaccin contre la tuberculose ou le VIH.
Professeur Grey, l'Afrique du Sud a vacciné moins de 300 000 personnes aujourd'hui, exclusivement des personnels de santé avec le vaccin produit par Johnson & Johnson. Comment, vous expliquez un tel retard dans la campagne de vaccination ?
L'ensemble du continent africain a pris du retard dans sa campagne de vaccination par rapport au reste du monde. Et ce constat est donc aussi valable pour l'Afrique du Sud. À l'origine, nous nous étions fournis en vaccin auprès d'Oxford AstraZeneca, mais quand on a découvert que le vaccin était peu efficace contre le variant, nous ne pouvions plus utiliser ce vaccin en Afrique du Sud, et ça a retardé notre campagne. Si on regarde les autres pays africains, ils vaccinent avec des vaccins dont on ne sait pas s'ils sont efficaces contre les variants qui font leur apparition sur notre continent. Nous savons par exemple que Sinovac, Sputnik et d'autres vaccins sont utilisés sur le continent, mais nous avons besoin de savoir si ces vaccins fonctionnent et aujourd'hui nous manquons de preuves pour savoir s'ils sont sans danger et efficaces.
Est-ce que les retards dans la campagne de vaccination sont aussi liés à un manque de pouvoir financier des pays africains ?
En tant que pays à faible revenu, on est moins apte à négocier de bons contrats. Je pense aussi qu'on s'est trop reposé sur l'initiative COVAX. Aujourd'hui, si l'initiative COVAX a permis de produire quelques vaccins et de les rendre disponibles sur le continent, on est encore loin des quantités espérées. Donc, pour résumer, je pense qu'on a trop fait confiance à l'initiative COVAX et dans notre capacité comme continent à négocier des vaccins. Et j'ajouterais que le manque d'investissement dans notre capacité à produire des vaccins sur le continent nous a mis dans une position défavorable par rapport à l'Europe et aux États-Unis.
Professeur Glenda Grey, nous avons le docteur Marie-Paul Kieny aujourd'hui avec nous en studio. Est-ce que vous auriez une question, peut-être un message à lui adresser ?
Je voudrais lui demander comment l'Afrique du Sud et la France peuvent travailler ensemble pour accélérer la recherche qui bénéficie aux pays africains et à la France. Je pense qu'il est très important d'avoir des accords bilatéraux pour que les scientifiques travaillent efficacement ensemble. J'aimerais que l'on explore les possibilités de devenir collaborateurs pour pouvoir améliorer la recherche et la science à la fois en Afrique du Sud, mais aussi sur le continent africain et qui bénéficierait au reste du monde. On sait que l'Afrique du Sud a contribué mondialement à la recherche contre le sida. Sans l'Afrique du Sud, on ne saurait pas aujourd'hui que traiter les enfants suffisamment tôt avec des antirétroviraux permet de sauver des vies. Même si nous sommes un continent pauvre, les réponses que l'on peut offrir peuvent changer le monde.
Marie-Paul Kieny, et puis ensuite évidemment Bruno Luna, j'ai envie de vous faire réagir à ces propos de la chercheuse sud-africaine Glenda Grey. Comment encourager justement ces collaborations fructueuses entre scientifiques de tous les pays et à travers des expériences qui sont propres aussi à chaque pays, Marie-Paul Kieny ?
Oui, alors bien sûr, la recherche scientifique de l'Afrique du Sud est d'excellent niveau, en particulier, ils sont effectivement en tête de pont en fait pour le développement de vaccins contre le sida. Ils collaborent aussi avec, par exemple, une collaboration avec une initiative dans laquelle je suis au conseil d'administration qui s'appelle GARDP, qui veut développer des antibiotiques qui sont accessibles aux pays pauvres. Et donc, ils participent activement à cette recherche sur les nouveaux antibiotiques. Il est clair qu'il faut qu'on soutienne des pays qui ont plus de ressources, qu'on soutienne aussi une recherche et au-delà de la recherche, en fait, une innovation dans ces pays pour que ces pays puissent eux aussi être capables de produire les vaccins et les autres produits pharmaceutiques dont ils ont besoin d'ailleurs.
C'est ça, parce qu'il n'y a pas que les vaccins d'ailleurs.
Il n'y a pas que les vaccins, absolument. Alors, dans ce contexte, justement, le président Macron a demandé aux acteurs d'initiative internationale qui s'appelle ACT-A et qui vise à restaurer plus d'équité dans l'accès aux diagnostics, aux médicaments et aux vaccins de la Covid, de créer, en fait, un groupe de travail qui va s'intéresser à l'augmentation des productions de capacité et, en particulier, de l'installation de production de capacité de production dans les pays à revenus limités, donc en particulier en Afrique. Et donc, nous avons commencé à travailler avec l'OMS notamment et le Medicines Patent Pool, donc une fondation basée à Genève qui s'appelle en fait en français la communauté des brevets, si je peux dire, et dont le rôle est de chercher à obtenir des licences sur des brevets de médicaments ou de vaccins qui pourraient être utiles dans les pays du Sud pour pouvoir les sous-licencier donc à des producteurs génériques qui pourraient augmenter donc leur pénétration dans les pays du Sud à des taux avec des conditions financières bien améliorées. Et donc, justement pour le vaccin COVID-19, il y a maintenant un groupe de travail avec le MPP, le Medicines Patent Pool, et l'OMS et d'autres pour voir comment faciliter le transfert de technologie et l'installation de capacités de production dans les pays du Sud.
Bruno Lina, vous qui travaillez sur les maladies infectieuses en général, en tant que chercheur, est-ce que vous pensez, comme nous le disait aussi Marie-Paul Kenny, que finalement ces crises, ces pandémies sont peut-être un moyen, enfin en tout cas on l'espère, de mener une recherche en réseau, de nous réveiller à la fois sur ce qui peut nous arriver, sur ce qui nous arrive et comment le partager?
Oui, absolument, mais en fait, il ne faut pas attendre uniquement les crises pour le faire, hein, parce qu'il y a aussi plein de ce qu'on appelle les pathogènes réémergents, qui sont finalement des maladies qui avec lesquelles on est en permanence confronté et qui donnent des foyers épidémiques. On pense à la tuberculose, on pense à la grippe, on pense à plein d'autres choses. Et en fait, dans les domaines de collaboration qu'on peut avoir avec les pays émergents et en particulier avec l'Afrique, c'est à la fois de la recherche très épidémiologique de terrain, ça peut être de la recherche clinique et ça peut être aussi de la recherche un peu plus fondamentale dans le domaine de la vaccinologie ou des traitements. Et là, pour le coup, c'est vrai que arriver à avoir une collaboration qui combine l'intérêt d'avoir des situations particulières un petit peu différentes, parce qu'on ne peut pas ne faire des médicaments que pour les pays riches. Il faut aussi voir quels peuvent être les impacts de ces traitements dans les pays pauvres. Et moi, dans le domaine de la grippe, je travaille avec une équipe en Afrique du Sud, et c'est extrêmement intéressant parce que il y a effectivement des données qui, lorsque l'on regarde ce qui se passe spécifiquement dans ce pays, eh bien c'est très intéressant et c'est très complémentaire. Et ça étoffe la connaissance générale autour de tout cela. Et il y a des équipes qui sont vraiment de très très bon niveau en Afrique du Sud, et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux.
Et sur la grippe en l'occurrence, est-ce que sur le palu on a une explication pourquoi est-ce que on en est au traitement, mais c'est très compliqué aussi. Vous parlez de maladies endémiques. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est si compliqué? Est-ce que c'est qu'une question d'argent? Est-ce que c'est autre chose aussi?
Oh, il y a toujours, l'argent est toujours un petit peu au cœur du programme, mais ça ne peut pas être que ça. En fait, quand même, développer un vaccin contre le paludisme est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a affaire à un parasite qui a des capacités d'échappement immunitaire, et la qualité de la réponse immunitaire que l'on peut avoir lorsqu'on fait une infection avec ce pathogène, ce parasite, ne confère pas une protection. Et c'est pour ça qu'on voit que les personnes se réinfectent. Et puis c'est donc très compliqué conceptuellement déjà de développer un vaccin qui soit efficace et qui pourrait empêcher le parasite de se développer dans l'organisme après qu'il y ait été injecté par un moustique. Donc c'est vraiment, enfin bon, c'est, la barre est très 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 haute, hein, pour faire un vaccin contre le paludisme.
C'est là où c'est le plus haut, alors que finalement un coronavirus plus proches de virus comme ceux de la grippe sont plus, même si les traitements sont compliqués à trouver, les vaccins sont ont la preuve, peuvent être trouvés, donc plus faciles à trouver.
On a On s'est appuyé, comme ça a été dit fort justement, sur la recherche qui existe déjà dans le domaine de la vaccinologie. Et c'est vrai que le virus et le SARS-CoV-2 en est un exemple. C'est finalement un outil relativement simple pour faire une infection, mais qui présente des caractéristiques permettant d'avoir une réponse immunitaire qui nous protège. Mmh. Il n'a pas de stratégie d'échappement immunitaire ou de camouflage comme peut l'avoir le VIH, par exemple, comme d'autres virus qui sont capables de se cacher dans notre organisme et de temps en temps de ressortir. Eh bien, ce virus ne le fait pas. Et ce qui fait qu'au bout du compte, lorsqu'on arrive à trouver une bonne cible, effectivement, cette protéine qui se trouve à la surface du virus, c'était une très bonne cible, qui est très immunogène et qui entraîne une réponse à la fois humorale avec des anticorps, mais aussi cellulaire avec les lymphocytes T, eh bien, on voit qu'on arrive à construire un vaccin qui va nous protéger et nous protéger très efficacement. Et c'est finalement une cible simple.
Finalement, oui, cette pandémie qui nous paralyse autour de la question quelle recherche pour quel vaccin. Je propose un nouvel éclairage, toujours vu d'Afrique, mais cette fois-ci vu du Congo Brazzaville, hein, avec une autre chercheuse d'exception, Francine Toumi, immunologiste moléculaire, très investie sur le continent, notamment dans les questions de santé mère-enfant. Francine Toumi est la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale qu'elle a montée. Elle vient également d'être élue présidente du conseil scientifique de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Je l'ai joint dans son laboratoire à Brazzaville.
Quand on compare les financements de la COVID, je crois que c'est 400 millions de dollars en une année contre 4 millions pour le paludisme. Donc, avec beaucoup d'argent, effectivement, cela permet à la recherche d'aller plus vite. Ensuite, aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent d'aller plus vite. Il y a beaucoup d'anticipation, il y a une accélération. Par exemple, dans les vaccins, CEPI est en train de préparer un vaccin contre beaucoup de pathogènes en même temps, beaucoup de coronavirus en même temps. Mmh. C'est fantastique. Bon, donc, il y a une accélération, c'est très bien. Mais avec un regard du Sud, où sommes-nous, nous, les scientifiques africains, dans cette accélération? Donc, est-ce qu'on peut mettre dans l'agenda de cette accélération les maladies qui nous tuent le plus? Bon, vous avez parlé du VIH, mais il y a le paludisme, il y a la tuberculose qui pose un très gros problème. Donc, comment on partage ces plateformes? Il y a le partage des données, les données ouvertes, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des partages pour que les scientifiques puissent tester des choses, puissent tester des constructions? Voilà. Mais quoi que la COVID a montré qu'on pouvait partager, les scientifiques du monde entier se sont parlé. Donc, il faudrait qu'on bâtisse là-dessus et que le dialogue entre les scientifiques pour les autres maladies soit aussi important, aussi intense, et qu'il y ait des mobilisations aussi de bailleurs de fonds, d'agences de financement. Il y a CEPI qui est là, il y a Glopid Air qui est là, mais qui en est plus. Et pour finir, ce que je dis toujours, il faudrait que l'Afrique mette la main à la poche pour pouvoir résoudre nos problèmes. Voilà, il faudrait qu'on soit plus présent financièrement. Je commencerai même par là, peut-être.
Je ne sais pas qui veut réagir, peut-être Marie-Paul Kenny, à ces propos de la professeure Francine Toumi depuis Brazzaville, qui, comme à son habitude, n'a pas sa langue dans sa poche, elle.
Oui, non, mais elle a raison. Je pense qu'on a un problème de sous-financement de la santé et de la recherche aussi par les gouvernements africains. Alors pourquoi est-ce? C'est parce qu'en fait, on a fini par en faire des assistés. On voit dans beaucoup de pays à revenus très faibles, notamment en Afrique de l'Ouest, hein, que, eh bien, ils reçoivent des financements du Fonds mondial, par exemple, qui sont uniquement pour les maladies couvertes par le Fonds mondial. Donc, en gros, la tuberculose, le VIH et le paludisme. Et comme c'est des financements plus importants que ce qu'ils ont d'habitude par leur ministère, eh ben, le ministère leur dit, bon ben voilà, utilisez donc l'argent du Fonds mondial et puis quand vous l'aurez terminé, vous viendrez me voir. Et très souvent, en fait, les pays, donc les ministres de la Santé rendent des financements en Guinée, par exemple, au ministère de l'économie à la fin de chaque année parce qu'il n'a pas pu les utiliser. Donc il y a un problème d'organisation. Il y a un problème aussi de dépendance vis-à-vis des fonds internationaux qui ont fait qu'il n'y a pas d'investissement Il n'y a pas d'investissement du pays. Et c'est lié aussi au fait qu'en Afrique, mais c'est le cas aussi en France, en Europe, plus largement, qu'on considère la santé comme un coût et pas comme un investissement. Et donc, c'est vrai que si on veut que ce sous-investissement change, c'est ça qu'il faut mettre sur la table, arriver à avoir une reconnaissance, une démonstration peut-être pour les gouvernements et les ministres des Finances que investir dans la santé, investir dans la recherche pour la santé, investir dans les personnels pour la santé, c'est un investissement et pas un coût.
C'est un investissement, oui, la santé. Et ça n'est pas un coût. Si au moins cette crise pouvait nous permettre de prendre conscience de ça, mais à tous les niveaux, il y a aussi, autour des vaccins, notamment en général et notamment autour de la Covid, des fake news, des fausses rumeurs. J'ai envie tous les deux de vous faire répondre ou réagir en tout cas à une question soulevée sur nos réseaux sociaux par un de nos fidèles auditeurs, hein, Miguel Capitao, qui est à Brazzaville. Justement, mais sa question m'a un peu scotchée et j'aimerais bien que vous y répondiez. Est-ce vrai que les fabricants de vaccins utilisent des cellules fœtales issues des avortements? On sent quand même un peu la fake news derrière et Miguel Capitao aimerait savoir pourquoi, si c'est le cas et pourquoi. Alors, est-ce que c'est le cas, Bruno Lina? Est-ce qu'on utilise des cellules fœtales? Là, on sent qu'il y a quand même un petit complotisme derrière.
Oui, alors non, on n'utilise pas des cellules fœtales. On utilise des lignées cellulaires et ces lignées cellulaires, elles dérivent de cellules embryonnaires qui datent de 1970. Donc c'est des cellules dérivées de cellules embryonnaires qui ont été collectées en 1970. Donc ça fait plus de 50 ans que ces lignées existent. Donc ça, les fœtus de 50 ans, ça n'existe pas. Et on a en fait toute une série dans les laboratoires de virologie, de lignées comme cela qui sont dérivées soit de cellules cancéreuses, soit parfois de cellules embryonnaires qui ont des caractéristiques permettant au virus de se multiplier de façon abondante. Donc c'est des outils qui sont à la fois des outils de diagnostic, hein, parce que parfois c'est comme ça qu'on arrive à cultiver les virus et puis à mieux comprendre leur biologie. Et puis ce sont des outils qui servent aussi dans le domaine de la production de vaccins, mais non, on n'utilise pas des fœtus pour produire du vaccin, certainement pas.
Voilà qui est dit autour de la question, quelle recherche pour quel vaccin? Alors je sais que vous devez nous quitter, Bruno Lina, parce que vous êtes évidemment très occupé en tant que chercheur et clinicien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur RFI. On reste avec vous, Marie-Paul Kieny, vous qui êtes en première ligne, hein, on l'a dit, vous l'avez été pour Ebola à l'OMS, comme pour la Covid aujourd'hui en France. Vous qui savez ce que gérer une crise sanitaire veut dire, qu'il faut tenir sur le temps long et pouvoir prendre soin de tout le monde. On continue de s'interroger après votre choix musical, Marie-Paul Kieny, qui nous mettra un peu de baume au cœur. Vous avez choisi d'écouter le grand Jacques Brel.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs. Mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout.
Bien voir un ami pleurer sur RFI, Jacques Brel, c'est votre choix musical. Marie-Paul Kieny, on vous en remercie parce que finalement il résonne un peu aujourd'hui avec ce qui nous arrive. autour de la question quelle recherche pour quel vaccin. Alors je rappelle que vous êtes virologue, Marie-Paul Kenny, directrice de recherche à l'INSERM, après avoir être passée par l'OMS au moment d'Ebola. Aujourd'hui, vous êtes présidente du comité vaccin Covid. Quelles recherches, justement, aujourd'hui sont en cours pour quels candidats vaccins dans lesquels croyez-vous, entre guillemets, ou qu'est-ce qu'on peut, à quoi peut-on s'attendre, Marie-Paul Kenny?
Alors, il faut dire que la recherche a progressé à une vitesse fantastique. Alors, c'est vrai qu'on était dans une situation quand même assez favorable. D'abord, il y avait quand même ce qu'on appelle des plateformes. Donc, ce sont des outils qui permettent de fabriquer des vaccins, soit à partir de virus vecteurs, comme les adénovirus, celui d'AstraZeneca ou de Janssen, soit des protéines sous unité, comme ce qui est développé par Novavax et Sanofi, qui tous les deux ont utilisé la technologie qu'ils avaient récemment mis au point pour un vaccin contre la grippe. Donc les technologies étaient là, on connaissait, on n'avait pas de doute sur la protéine qu'il fallait utiliser pour prémunir contre une infection par SARS-CoV-2, puisque c'est la protéine qui est la cible des anticorps qui sont capables de neutraliser le virus. Donc on savait pas mal de choses, mais on a appliqué les recettes, on les a appliquées bien, on les a appliquées vite, on a fait autant que possible tout ce qui était possible en parallèle. À la place d'attendre qu'une étape soit terminée pour commencer la deuxième, on a investi énormément pour commencer à produire ces vaccins, alors même qu'on ne savait même pas s'ils étaient efficaces. Ils sortaient peut-être d'une production tout à fait à perte. Et on en est donc arrivé maintenant à avoir quelques vaccins dont l'efficacité a été démontrée et qui sont utilisés pour vacciner dans la plupart des pays du monde. Alors, il faut savoir aussi que les vaccins qu'on a à disposition en France ne sont pas les seuls qui ont été montrés comme étant efficaces. Il y a un vaccin qui fait couler beaucoup d'encre, le vaccin appelé Sputnik, Victoire, qui a été développé en Russie, des vaccins inactivés développés par la Chine, des vaccins indiens, et heureusement qu'on a tous ces vaccins, parce qu'il faut des vaccins pour le monde entier. Le fait que cette innovation ait eu lieu sur tous les continents, en fait, est un grand plus.
C'est un grand plus. En même temps, en France, on n'a pas réussi. Enfin, les recherches n'étaient pas assez innovantes. On n'avait pas de billes, au fond, de recherche fondamentale à long terme qui nous permettait de dégainer rapidement. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Marie-Paul Kenny?
Alors, je pense qu'effectivement, en France, mais ça fait plusieurs décennies maintenant, en fait, on a de plus en plus considéré que la recherche, ça coûte, surtout la recherche en santé. Alors peut-être qu'on investit davantage, je ne sais pas du tout mon domaine, mais dans le fractionnement de l'élément pour des industries atomiques, dans
l'intelligence artificielle,
artificielle. Mais pour ce qui est de la santé, aussi bien dans la recherche que dans la santé elle-même, pour le système de santé, on a cette considération qu'en fait, tout ça, c'est des coûts. Et comme c'est des coûts, on veut les limiter, les éliminer, les diminuer autant que possible. Mmh. Alors, on ne peut pas tout enlever, évidemment, mais ça reste. Mais c'est des coûts. Et donc, on ne considère pas ça comme des investissements. Donc, en fait, on a de la recherche fondamentale de valeur. Mmh. Et c'est grâce à ça qu'on a quand même une innovation médicale aussi en France. Mais trop souvent, une fois qu'il y a, disons qu'il y a une découverte, si on peut dire, on dit aux chercheurs, on n'a pas d'argent, alors débrouille-toi, va voir l'industrie, va voir si quelqu'un est intéressé. Si quelqu'un est intéressé, en plus, tu peux peut-être devenir riche, sait-on jamais, ça arrive. Et puis ça va se développer. Donc on a cette impression qu'en fait, l'innovation dans le domaine de la santé appartient exclusivement à l'industrie et qu'il faut totalement se confier à l'industrie et confier l'avenir de notre innovation médicale à l'industrie. Alors je pense que c'est vrai que l'industrie est un partenaire et qu'il faut effectivement l'utiliser dans toute sa valeur, mais il faut aussi bien comprendre que l'industrie, surtout l'industrie des industriels, des multinationales cotées en bourse, ont un devoir, un et un seul, en gros, normalement il y a des devoirs accessoires, et c'est de maximiser les profits pour leurs actionnaires. Et ils le font à travers les médicaments, comme ils pourraient le faire à travers, la fabrication de téléviseurs. Et donc, Et donc, c'est très bien, je crois que ça fait partie du monde, du business auquel on est, la financiarisation de l'industrie. Mais il faut surtout, en tant que nation, en tant que gouvernement, gouvernant de ces nations, se dire qu'en fait, pour protéger nos citoyens des maladies, il faut avoir un investissement public et donc arriver à se débrouiller avec notre argent, l'argent de nos impôts, éventuellement des impôts qu'on lève sur l'industrie d'ailleurs, pour financer la recherche et le développement pour les produits qui n'intéressent pas l'industrie pharmaceutique parce qu'ils ne voient pas suffisamment de profit.
Est-ce que vous pensez être plus entendu, Marie-Paul Kieny, vous qui êtes aussi engagée, on l'a dit, dans DNDI, c'est-à-dire l'initiative pour les maladies négligées, est-ce que vous pensez être plus entendu de nos gouvernants en France et puis dans le reste du monde ?
Alors je pense maintenant oui, mais ce qu'il va falloir voir, c'est que très souvent, dans les périodes de crise, on dit « oh là là, j'aurais pas dû, je ferai autrement la prochaine fois », etc., etc. Et puis quand la crise est passée, on se dit « oh bon, allez, on ferme la page, on en a assez parlé, on veut plus parler de ça, et on retourne à la vie d'avant ». Alors j'espère qu'effectivement ça aura été en France et dans d'autres pays aussi comme une piqûre de rappel en disant et attention, pensez qu'il faut faire quelque chose, mais c'est pour les crises, mais pas seulement. Il faut savoir qu'en France on a des pénuries de médicaments, des médicaments de base, on a des pénuries de d'antibiotiques de base, on a des pénuries de première ligne de chimiothérapie, tout ça. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, pour l'industrie, ce marché n'est pas suffisamment profitable. Donc, il faut qu'on repense notre système de souveraineté, et pas seulement européenne, et d'approvisionnement de ces produits qui sont tellement importants pour nous, et qu'on arrête de penser que si on laisse le business s'équilibrer, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Et ça, c'est valable. Alors, on a parlé des vaccins aujourd'hui, on va terminer là-dessus, mais c'est valable pour tous les médicaments aussi, et même pour les traitements concernant cette pandémie de Covid et d'autres. C'est-à-dire qu'il faut aussi encourager la recherche fondamentale pour ce qui est des traitements.
Absolument, et c'est une recherche fondamentale qu'il faut encourager pour toutes les maladies qui ont une importance de santé publique pour nous et aussi pour les pays qui ont des revenus limités, comme le disait tout à l'heure Francine et Glenn Dagret, donc pour le paludisme, pour le VIH-Sida, etc., de façon à ce que en une société mondiale, en fait, on arrive autant que possible à se débarrasser, si c'est possible, sinon à contrôler ces vieux ennemis de l'humanité que sont les agents pathogènes.
Et oui, on y reviendra bien sûr. Merci en tout cas infiniment, Marie-Paul Kieny, d'avoir nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour partager toutes ces pistes d'interrogation, de recherche, de découverte aussi. Merci pour votre engagement, hein, Marie-Paul Kieny. J'ai envie de dire haut les cœurs. Si seulement notre commune...
Merci, c'est un plaisir.
Merci à vous. Et si seulement notre commune vulnérabilité pouvait générer une commune empathie, un réel partage donc de vaccins comme de traitements contre la Covid et contre toutes les autres maladies, ce serait le meilleur que l'on pourrait tirer de cette crise. Merci à vous, Marie-Paul Kieny.
Merci à vous et bon après-midi.
Merci. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à partager, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, pour préparer le voyage dans l'espace, celui de Thomas Pesquet, mais aussi de tous les autres spationautes français qui sont tous passés entre les mains expertes de Guillemette Gauquelin-Cor, responsable des sciences de la vie au CNES, pour savoir comment l'homme peut ou pas, d'ailleurs, s'adapter dans l'espace, émission spéciale et spatiale, à suivre demain avec un petit clin d'œil de et à Thomas Pesquet, évidemment, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité, pour votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.